Le 5 mars 1979, j'entre au Conseil national, je prête serment, et le lendemain, suite à une intervention d'un radical balois, le Conseil national prévoit, 8 heures du matin, une séance consacrée à la question jurassienne. Il est clair que, dans ces conditions, je ne pouvais pas me soumettre à la règle non écrite d'une absence de parole avant un certain temps dans le Cénacle. Et j'avais donc préparé mon intervention. Je l'avais écrite, éditée sous forme d'un cahier que j'avais fait traduire en allemand. Et donc, voilà pour les conditions de départ. Avant de prendre la parole, avant d'être appelé à la tribune, j'ai fait distribuer par un huissier les fascicules contenant mon intervention en français pour les journalistes francophones et en allemand pour les journalistes germanophones.
Cette intervention, c'était une critique de la mécanique plébiscitaire qui avait mené à la création du canton du Jura, mais qui portait sur des éléments bien précis.
Alors, ce n'était pas seulement une critique, c'était ce que j'appellerais un réquisitoire, que je développais en 3 temps. Premier temps, la solution démocratique à trouver pour permettre au peuple jurassien de s'exprimer sur son avenir. Cette période de réflexion, dans des cas identiques ailleurs, on faisait mettre à table les partenaires, enfin plutôt les opposants. Les deux parties, pour et contre, auraient dû se trouver pour évoquer le comment, le pourquoi, s'en sortir, etc. Or, ici, on sait que la Confédération a fait pression sur le canton de Berne pour que le canton de Berne, lui, fasse quelque chose. Mais dans cette phase, on va dire préparatoire, le Rassemblement jurassien, seul représentant du mouvement séparatiste demandant l'autonomie, n'a pas été consulté, n'a pas été associé à la réflexion préalable cherchant une solution. Premier volet de ma critique.
Le deuxième volet, c'était sur l'holophonie.
C'était plus globalement sur le contenu de la loi qui permettait le plébiscite. Les Bernois avaient comme souci premier de faire en sorte que le vote prévu dans ce plébiscite conclut à un résultat négatif sur l'ensemble du Jura. Et puis, ils avaient prévu que si les districts séparatistes le voulaient, c'était à eux de faire la démarche suivante, à savoir faire éclater le Jura et décider, eux, à trois, de constituer un canton du Jura. Dans la mécanique qui a été mise en place, Berne a cherché à obtenir un résultat négatif et il a utilisé le Lofoten, qui était incité à voter non, et ça lui permettait, ça lui ouvrait la porte à des options Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure ou rester bernois, s'il votait non lors du premier plébiscite. Et cet élément-là de l'additif était en quelque sorte l'assurance d'un vote négatif sur l'ensemble du Jura.
Et puis le troisième volet, alors ça parlait du déroulement des plébiscites en eux-mêmes et du climat de tension de l'époque entre le vote du 23 juin et puis les plébiscites suivants.
Alors mon troisième volet de ce réquisitoire portait justement sur l'ambiance qui a prévalu pendant cette période plébiscitaire. Chose étonnante, la période précédant le vote du 23 juin a été calme et parfaitement démocratique. La preuve en est les débats contradictoires entre André Horry et Roland Béglin, par exemple, qui ont pu avoir lieu aussi bien à Saint-Imier qu'à Delémont, sans susciter de réactions, de manifestations, etc. Donc on peut dire qu'il y a eu dans cette période une ambiance démocratique, chacun pouvant exprimer son opinion sans soulever des mouvements de colère ou d'agitation, etc. Or, dès après le plébiscite que Berne a perdu, que les Jurassiens ont gagné, Berne n'avait pas de plan B et par conséquent a dû improviser et laisser aussi le terrain à ses troupes, à ses soutiens, qui, eux, n'ont eu comme moyen d'expression pour influencer sur les votes successifs, les sous-plébiscites de mars et de septembre 75, ont développé un climat de violence anti-jurassienne qui a alors perturbé, avec la complicité avérée des autorités cantonales bernoises, et puis surtout avec la complicité aussi de la police cantonale qui a laissé faire des choses qu'un climat démocratique ne devrait pas permettre.
Et puis alors là, vos propos à la tribune, ils n'ont pas du tout plu au conseiller fédéral en charge de ce dossier. Kurt Furgler, qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment s'est manifesté son sentiment?
Kurt Furgler a qualifié mes propos de la façon suivante. Une addition de mensonges ne font pas la vérité, premier élément. Deuxième élément, ce n'est plus de la politique, c'est de la bêtise. Et ces deux déclarations dans la diatribe de Kurt Furgler ont été considérées dans le Jura comme des insultes. Et c'est pour cela que le mouvement séparatiste, le Rassemblement jurassien, a demandé à Kurt Furgler de bien vouloir s'excuser.
Il avait un peu surjoué la colère à ce moment-là, Kurt Furgler. Comment vous avez vécu ça?
Pour moi, Kurt Furgler, qui est quand même un des artisans de la solution politique qui a été mise en place, s'accommodait, je crois parfaitement, d'un canton du Jura à trois districts où le PDC avait une majorité relative. Et d'abord, il y avait le fait que son engagement pour la solution était ainsi mis en cause publiquement devant le Conseil national. Je pense qu'il était énervé, choqué peut-être. Je l'ai vu s'agiter pendant mon intervention, mais de façon assez théâtrale, parce qu'il était, je crois, très fort politicien et aussi très doué théâtralement.
Mais il avait même jeté ses crayons, c'est ça?
Oui, il jetait ses crayons et je le sentais bouillir à quelques pas de moi. Et puis je n'ai pas été étonné de la réaction qu'il a exprimée à la tribune.
C'est une affaire qui a pris vraiment de l'ampleur, puisque le Rassemblement jurassien à l'époque a demandé des excuses de la part de Kurt Furgler, qu'il n'a pas voulu faire. Il y a eu une pétition qui a été soutenue par 15 000 personnes. Et puis, tout ça a finalement engendré l'annulation de la fête qui était prévue pour marquer l'entrée en souveraineté du Jura avec les cantons, la Confédération. C'est vraiment une affaire qui a pris une tournure importante, puisque cette fête, le gouvernement jurassien avait dû finir par l'annuler.
Oui, et ce n'est pas faute d'avoir tenté d'obtenir un arrangement, une médiation. Je crois qu'on doit à Joseph Voyam l'organisation d'une rencontre entre Furgler et moi après les événements, mais une rencontre qui n'a pas abouti à une forme de conciliation. Et c'est vrai que le Rassemblement s'est montré à cette époque assez virulent dans son opposition à voir Furgler venir défiler le 11 mai 79 à Delémont. Et on pouvait craindre effectivement, et le gouvernement jurassien pouvait craindre des débordements qui auraient nuit à l'image du canton à l'extérieur. Et il a, à ce moment-là, décidé d'annuler purement et simplement la rencontre. Donc la fête réunissant la Confédération et les cantons suisses qui avaient voté massivement en 78 en faveur de l'entrée en souveraineté du canton du Jura.
Alors un autre événement auquel vous avez participé directement, vous étiez là à l'époque président d'intérim du Rassemblement jurassien, c'était une assemblée le 16 mars 80 à Corte-Hébert, où il y avait eu là des émeutiers pro-bernois qui avaient perturbé la manifestation. Vous pouvez nous raconter ce qui s'était passé, comment vous l'avez vécu?
Cette assemblée des délégués devait désigner un nouveau président pour le Rassemblement jurassien. C'est vrai que réunir à Corte-Hébert le 16 mars une assemblée de délégués du Rassemblement jurassien pouvait être considérée comme une provocation. Cependant, les règles démocratiques, malgré le caractère un peu provocateur de l'événement, imposaient le respect de la liberté de réunion. Mais côté bernois, plutôt pro-bernois, il y a eu mobilisation et les bus qui conduisaient les jurassiens, les séparatistes, les membres, les délégués du Rassemblement jurassien à Corte-Hébert ont été cailloutés. ce qui fait que ces bus n'ont pas pu rester pour attendre la fin de l'Assemblée et ramener les gens dans leur localité respective. Les bus ont dû partir. L'hôtel de l'Ours à Corteberg est resté entouré par des Pro-Bernois en colère et ont empêché toute sortie, toute fin des débats et rentrée chez eux des membres, au point que, si on se rappelle, Ivan Vecchi avait même été blessé sérieusement lors de cette journée.
Il y a même des coups de feu qui ont été tirés contre le bâtiment. Il y a eu vraiment des débordements graves lors de cet événement du 16 mars 1980, mais manifestement, à l'époque, la police cantonale bernoise n'était pas intervenue.
La police était présente pendant toute la journée, l'après-midi, et puis il était impossible pour les gens qui voulaient rentrer chez eux de sortir sans risque, parce qu'ils étaient pris à partie, le cas d'Ivan Vecchi était connu, et par conséquent, avec Gabriel Roy, nous étions tous deux conseillers nationaux à cette époque-là, pendant une période de session qui nous permettait de faire valoir notre immunité parlementaire, nous sommes sortis pour demander des explications à la police et surtout leur demander d'intervenir pour permettre aux gens de rentrer chez eux. Et devant l'impossibilité d'obtenir cela, j'ai demandé à être conduit au poste de commandement qui se trouverait à la préfecture de Courtelarie, où j'ai tenu à faire une déclaration enregistrée. J'ai demandé qu'elle soit enregistrée et qu'on m'en fasse une copie que je n'ai jamais reçue. Et puis, après cela, après avoir fait cette déclaration, nous avons fait état à ce moment-là de notre immunité parlementaire et du fait qu'il devait nous libérer. Mais nous n'avons pas voulu sortir de la préfecture non accompagnés et nous avons demandé à la police de nous conduire jusqu'à une gare où nous avons pu prendre un train pour rentrer à Moutier. J'avais au préalable téléphoné à Charles Vizard en lui demandant de bien vouloir organiser une conférence de presse pour le moment de notre retour au secrétariat du Rassemblement jurassien à Moutier. Et les agents nous ont conduits à la gare de Sonsbeau. Nous leur avons demandé d'attendre que le train soit en gare pour pouvoir quitter leur voiture et entrer dans le train. Et nous avons donc pu faire notre conférence de presse à Moutier. Mais après coup, j'ai multiplié les téléphones en direction de Berne, sans résultat, quand je dis en direction des autorités cantonales bernoises, sans résultat, et j'ai dû aussi téléphoner au niveau fédéral pour demander que Berne respecte les libertés de réunion et surtout la liberté de mouvement des personnes enfermées dans l'hôtel de l'Ours et que ces personnes puissent rentrer chez eux.
Ces personnes avaient en définitive pu rentrer chez elles après toutes sortes de tribulations. On parlait de Kurt Furgler avant. Là, sur cet épisode-là, Kurt Furgler, il avait aussi, c'était aussi fâché aux chambres fédérales, mais là, pour prendre plutôt la défense des autonomistes.
Alors Furgler, en parfait démocrate, a attaqué Berne qui n'avait pas réussi à faire respecter la liberté de réunion. Et il y a eu donc manifestation le dimanche, ou assemblée des délégués le dimanche, et le mercredi suivant, nous étions en session aux chambres fédérales. Et là, Kurt Furgler a été assez sévère contre le gouvernement bernois, ce qui m'a permis de m'exprimer après lui et d'avoir un discours qui utilisait quasiment ce que lui avait dit contre Berne pour assurer, disons, la vision séparatiste que nous avions de cette entrave inadmissible à la liberté de réunion.
On va revenir un petit peu en arrière au fil du temps. Vous avez présidé la section locale du RJ de Moutier depuis les années 60 jusqu'à l'époque des plébiscites. C'est de la fédération du district de Moutier. Fédération quand même un petit peu particulière parce qu'on se retrouvait avec, dans la configuration de l'époque du district de Moutier, des villages très autonomistes. C'était par exemple les villages du Valterbi, mais aussi des villages beaucoup plus anti-séparatistes. Ça ne devait pas être très simple d'être président de cette fédération.
Nous nous retrouvions entre séparatistes, qu'ils soient du district de Moutier Sud ou du district de Moutier Nord. Nous étions entre gens connus et d'accord sur l'ensemble des choses. C'est la vie des autonomistes dans les villages très antiséparatiste qui était peut-être un peu plus compliqué, quoiqu'à l'époque, il y avait une... Je dis bien jusqu'à la date du 23 juin 1974, bah, la vie était, on va dire, normale. Elle ne s'est un peu crispée que pendant la période des sous-plébiscites. Et puis après, les choses étant stabilisées, institutionnellement mises en place, la vie est presque partout redevenue normale. Les gens cohabitaient sans être nécessairement d'accord entre eux. Il y a bien eu à cette époque des restaurants réservés aux séparatistes, des commerces qui étaient fréquentés plutôt par des séparatistes, etc. Mais on va dire que dans l'ensemble, les gens continuaient d'être actifs dans des sociétés, ensemble, dans des sociétés comme le football, les chœurs ou la fanfare.
Mais là, vous parlez vraiment de la situation de la ville hein, de Moutier, où il y a eu hein, quand même ces phénomènes hein, où chacun se retrouvait dans ses endroits et pas forcément dans ceux de l'adversaire. La situation était vraiment très tendue en 75, hein, lorsqu'il y a eu ces émeutes à Moutier. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez craint pour la ville? Parce qu'on avait vraiment l'impression que la situation était tellement tendue que les gens ne parvenaient plus à se parler.
Oui, 75, pour les raisons que nous avons déjà évoquées, 75 a été une année de tensions vives entre anti- et pro-jurassiens. Mais ça s'est limité quand même à cette incommunicabilité entre personnes et ce choix ou cette concentration sur des lieux de rencontre, magasins, bistrots, etc., qui étaient eux-mêmes très marqués, très colorés.
Le vote du 23 juin, il y a eu un mouvement de bascule qui s'est opéré en partie dans le district dont vous présidiez la fédération, c'est le district de Moutier. Parce qu'entre 59 et 74, certains villages importants, comme Croix-en-Velin par exemple, avaient changé d'opinion hein, sur la question jurassienne, étaient passés du non au oui. Donc, le district de Moutier a vraiment eu un rôle charnière dans cette victoire du 23 juin.
Oui, et puis le district de Moutier a éclaté. Donc, le district de Moutier s'est un petit peu réduit en grandeur. Et puis, la vie a donc continué, on va dire, normalement, sauf à Moutier, où là, si la bataille immédiatement post-plébiscitaire, il n'y avait plus d'issue institutionnelle, a surtout été marqué par une recherche d'une majorité autonomiste à la municipalité, avec une bataille pour la mairie, avec une bataille pour des places au conseil de ville. Il y a eu quelques années avant que les autonomistes prennent ce qu'on peut appeler le pouvoir communal.
Pour terminer, petite anecdote sur le 23 juin, la soirée du 23 juin, vous avez un souvenir particulier avec un déplacement sur Delémont et un drapeau.
Alors, dès le résultat vraiment connu, à savoir après le résultat de Porrentruy qui est tombé, c'était celui qui était attendu avec un peu d'anxiété, mon épouse et moi sommes descendus en voiture de Moutier à Delémont, une séance du comité directeur du Rassemblement jurassien était convoquée pour organiser l'événement, la suite, etc. Et je suis descendu en voiture, drapeau au vent, et c'est le seul drapeau qui était présent dans la salle de séance du Soleil et qui a été accroché au rideau derrière la rangée des membres du bureau exécutif pour cette séance organisatrice de ce qui allait suivre le jour même et la semaine après le 23 juin.
C'était un drapeau donc prévôtois, c'était déjà presque tout un symbole de la suite de ce qu'il allait advenir.
On peut dire ça comme ça.